To be or not to be, not to be.
Quand t'es parent, il faut être réactif. Les tendances du prêt-à-porter sont plus faciles à suivre que les goûts d'un enfant. Un jour, tu rentres à la maison avec une voiture Flash McQueen sous le bras, et soudain ton fils de 4 ans te regarde comme si tu venais d'ouvrir la mer Rouge en deux. 2 ans plus tard, rien à voir, il filera un coup de pied à cette même voiture avec une nonchalance qui préfigure une adolescence compliquée. 2 ans plus tard, désormais son truc, c'est Yo-Kai Watch. Une montre en plastique horrible dans lequel on place des disques de petits fantômes japonais qui font de la musique aussi harmonieuse qu'un rappeur en autotune. T'as à peine fini de comprendre quel est le principe d'avoir une fausse montre qui donne pas l'heure que voici le hand spinner, introduit dans les cours de récréation. Une toupie que l'on peut faire tourner à une main. Et à chaque fois, le même besoin impérieux de posséder l'objet convoité. Il en va de la vie sociale de l'enfant. Refuser, c'est exposer son gosse à la vindicte populaire de ses camarades. Le jouet à la mode est aux élèves d'une classe ce qu'un permis de séjour est à un migrant. Pourtant, il est une mode qui jamais ne disparaît vraiment. Un phare de stabilité ludique vers lequel reviennent toujours petits et grands joueurs égarés. Ces petits animaux fantasmagoriques kawaii, venus du pays du soleil levant. Ces étranges bestioles qui s'expriment dans un sabir limité.
Pika pika!
Je veux bien entendu parler de Pokémon.
France Inter. Blockbuster.
Jusqu'ici ça va.
Frédéric Siglis.
Bonsoir à tous, je vais vous présenter les 3 Pokémon qui seront mis demain à la disposition des apprentis dresseurs Pokémon. Voici Bulbizarre, Salamèche et Carapuce. Ils attendent tous les 3 un dresseur. Lequel choisirez-vous ?
Ce matin, on va parler d'un jeu vidéo, d'un jeu de cartes, d'un dessin animé, d'un manga, de jeux de téléphone portable, de produits dérivés et de la condition de vie des animaux. On va parler de Pokémon. Alors à mes côtés, celle qui a l'élégance d'Evoli et la détermination de Tortank, Sophie Hoffman, bonjour.
Bonjour Frédéric.
Alors de quoi vous allez nous parler aujourd'hui, Sophie ?
Eh bien aujourd'hui, je vais vous présenter l'exposition de Jean-Jacques Sempé dans la ville de Semur en Auxois.
Alors, il faut préciser que vous me l'avez dit hors antenne, que vous n'entravez absolument rien aux Pokémon.
C'est ça. Alors j'ai à côté de moi plusieurs petites feuilles blanches. Je vais écouter attentivement tout ce que vous allez dire et le principe, c'est que je comprenne. Et quand je comprendrai pas, je vous le dirai.
Pas de problème, je compte sur vous. Avec nous ce matin également, Olivier Bénis. Alors vous êtes journaliste au service web de France Inter, diplômé de l'IUT de journalisme de Bordeaux en 2007. Vous animez une chronique hebdomadaire Net Plus Ultra. Hein, vous êtes également passionné de culture japonaise, de comics et de jeux vidéo, ce qui fait de vous une personne de qualité,
vices,
entre autres vices. Et les auditeurs ont déjà eu le plaisir de vous entendre dans l'émission Pop Fiction d'Ali Rebéi. Avec vous, on essaiera de faire découvrir aux non-initiés ce que c'est qu'un Pokémon, hein, de leur création à leur multiples déclinaisons. On essaiera de comprendre les règles et la logique qui sous-tend cet univers, parce qu'il y a énormément de règles. Et surtout, pourquoi ces incroyables animaux plaisent autant aux petits qu'aux grands. Olivier Bénis, bonjour.
Bonjour Frédéric.
À nos côtés également, Laurent Sarang et Sébastien Moreau. Alors Laurent Sarang, vous êtes professeur de philosophie, membre de L214, de l'Association Végétarienne de France. Vous avez écrit pour une communauté humaine et animale, La question de la dignité animale. Et vous allez publier un ouvrage collectif en janvier 2018 sur la cause animale. Bonjour.
Bonjour tout le monde. En effet, je défends, donc, comme beaucoup de militants de la cause animale, l'antispécisme. Et donc c'est un combat rude que nous menons.
Mais on va parler de tout ça. Également à nos côtés, Sébastien Moreau, vous êtes militant animaliste, spécialiste des jeux vidéo, parce qu'il y a un passé quand même. Hein. Vous faites également de la vulgarisation scientifique sur la cognition animale, et vous avez été ancien joueur de jeux vidéo de haut niveau, capitaine de l'équipe de France à Return to Castle Wolfenstein notamment, un jeu extrêmement violent quand même. Hein. Mais on en parlera. Bonjour à vous.
Bonjour tout le monde, merci de l'invitation.
Alors, avec vous deux, on reviendra sur la manière dont sont perçus les animaux dans les jeux vidéo, et plus particulièrement dans Pokémon, et on essaiera de voir si le lien qui se tisse entre les joueurs et leurs Pokémon est à même d'aider ou de faire obstacle à l'amélioration de la cause animale. Mais avant tout cela, il y a tout un tas de parents, Sophie également, que dis-je, tout un tas d'auditeurs qui depuis des années ne comprennent absolument rien à Pokémon et qui comptent ce matin sur vous, Olivier Bénis. Ils comptent sur vous, il y a de la pression pour enfin comprendre ce que c'est que Pokémon.
Je ne sais pas si je vais réussir à faire comprendre ce que c'est que Pokémon, mais je peux essayer de vous expliquer vaguement en fait ce que c'est. Au tout départ, c'est un jeu vidéo, donc vous l'avez dit, hein, sorti en 96, si ma mémoire est bonne, au Japon, quelques mois, voire 1 ou 2 ans plus tard, hein, en France et aux États-Unis. Et à l'époque, c'est un type, en fait, un peu tout seul, un japonais, qui s'appelle Satoshi Tajiri, qui était collectionneur d'insectes en son enfance. Ça nous paraît un petit peu bizarre, mais au Japon, c'est ce que font quasiment tous les enfants. C'est une sorte de hobby local, collectionner des insectes. Et puis un jour, quand il a commencé à devenir développeur de jeux vidéo, à inventer des concepts, il s'est dit, tiens, est-ce que j'imaginerais pas un concept où on pourrait rencontrer, alors pas que des insectes, mais récolter plein de petits animaux imaginaires et les échanger avec ses amis.
Et d'ailleurs, il a eu cette réflexion parce que les forêts et les marais autour duquel il attrapait ses insectes avaient disparu suite à l'urbanisation de Tokyo. Et c'est des endroits qui ont été remplacés par des parkings et des supermarchés.
C'est ça. Et lui, il a toujours eu un petit peu cette nostalgie de la nature qu'on pas mal de Japonais en fait, parce que c'est un pays qui est assez paradoxal, qui est à la fois extrêmement urbain, qui veut s'étendre tout le temps, fabriquer des villes partout, et qui a ce lien à la nature qui est très très complexe et un peu contrarié, mais qu'ils arrivent à gérer. Et Pokémon, en fait, ça a répondu un peu, je pense, à une attente à l'époque des enfants et des ados de l'époque, et ça a été un carton un peu surprise. Alors à l'époque, ça s'appelait Pocket Monsters en fait au Japon, avec la prononciation japonaise, ça donnait plus ou moins Pokémon Pocketo Monstro, si je me souviens bien.
Vous le faites très très bien.
Je le fais très bien, merci, beaucoup de travail. Et quand c'est arrivé aux États-Unis, en fait, il y avait déjà un autre jeu vidéo qui existait, qui s'appelait Monster in My Pocket, je crois, et du coup le nom était plus ou moins pris. Il a fallu penser à autre chose, et ils sont restés à un truc très très court qui s'appelait Pokémon. Et quand c'est arrivé sur nos côtes occidentales un peu, il y avait déjà cette aura de ça a cartonné au Japon, ça va marcher chez nous. On était un peu au summum de l'époque de la Game Boy, ou du Game Boy, selon ça, je laisse les gens choisir. Et donc, c'était un jeu pas de fin de règne de la Game Boy, mais un petit peu. On était sur les dernières années.
C'est d'ailleurs aussi la rencontre avec Shigeru Miyamoto, qui est quand même le créateur de Super Mario et également de Zelda.
Ce qui n'est pas rien. Et quand Shigeru Miyamoto dit un concept m'intéresse, en général, on l'écoute.
Et donc, c'est sorti en premier lieu sur la Game Boy.
Oui, c'est ça. C'est exactement ça. Vous l'avez bien expliqué, Olivier. Alors, c'est un succès surprise, mais un succès qui est quand même fulgurant, parce qu'on arrive très très vite autour de 30 millions d'exemplaires vendus.
Ouais. Ça va extrêmement vite. Enfin, pour un jeu vidéo au Japon. À l'époque, on n'est pas encore dans l'industrie de masse du jeu vidéo qu'on connaît aujourd'hui, où il n'y a que des blockbusters, justement. Là, c'est... À l'époque, lancer un jeu, c'est un peu lancer un truc dans l'inconnu, quoi. C'est que ça peut aussi bien être un bide retentissant et pas du tout fonctionner, qu'être un succès. Et en plus, Pokémon partait avec une sorte de handicap qui finalement est devenu, à mon avis, sa plus grande force. C'est que c'est Miyamoto, je crois, qui a eu l'idée, qui a dit on va pas sortir un jeu, on va en sortir deux. Et on va sortir deux jeux qui seront quasiment les mêmes, à quelques petits détails près. Parce que l'idée, c'était de se baser sur
l'échange.
Les deux jeux sont complémentaires. Et donc, je vais avoir, moi, Pokémon version à l'époque bleue. Mon meilleur ami va avoir Pokémon version rouge. On va jouer un peu chacun dans notre coin. Et au bout d'un moment, on va pouvoir se rencontrer, utiliser ce fameux câble Link qui a révolutionné à l'époque les consoles portables, qui était un câble qui permettait de jouer à deux. À l'époque, ça se vendait avec Tetris, tout simplement. Mais quand on est arrivé au Pokémon, ils ont eu l'idée d'aller au-delà du « on va jouer ensemble », c'est « on a chacun eu notre petite aventure de notre côté dans cet univers-là, on a récolté et rencontré des créatures différentes, on va se les échanger et on va voir qui a des choses qui peuvent intéresser l'autre ».
Et d'ailleurs, ce système d'échange, même si les consoles ont évolué et se sont modernisées, a perduré parce que désormais, il y a une banque numérique qui s'appelle le PokéTransfer qui permet de faire passer les Pokémon d'une ancienne version sur la nouvelle et de continuer à les échanger avec des joueurs venus du monde entier.
C'est ça. Et d'ailleurs, la banque Pokémon, plus globalement, c'est un service qui a été lancé il n'y a pas si longtemps, il y a 2-3 ans, je crois, sur les consoles de la Nintendo 3DS, en fait, qui est la lointaine héritière de la Game Boy, parce qu'il y en a eu un petit paquet avant. Et alors moi, je sais qu'à titre personnel, c'est le truc qui m'a convaincu de me remettre à Pokémon. C'est-à-dire que quand moi j'avais joué à l'époque au premier sur Game Boy, il y a eu une période où je me suis dit bon, je vais pas non plus tous les faire, je les ai un peu essayés tous et tout. Et puis quand est arrivé ce concept de mais au fait, vous pouvez récupérer tous les jeux des versions précédentes, enfin tous les Pokémon des versions précédentes et les transférer, il y a un ou deux ans, c'est arrivé et moi je me suis dit ok. Là, on reprend les choses sérieuses, on repart à la base, on sort les Game Boy, on finit les jeux dans l'ordre et on les transfère de l'un à l'autre. Et c'est aussi ce qui fait, donc, comme je disais, la grande force du truc, c'est que tous les jeux, en fait, ont un code génétique ou une espèce de suite.
Similaire.
Voilà, c'est-à-dire qu'à chaque fois, il y a des nouveaux Pokémon dans les nouveaux jeux, mais tous les anciens sont aussi disponible, il n'y en a aucun qui disparaît.
Et alors là, on parle vraiment des singularités du système Pokémon, mais le principe du jeu en tant que tel, quel est-il ?
Alors, c'est un jeu de rôle, typiquement japonais, en fait. C'est même, à mon avis, le jeu qui a initié énormément d'enfants et d'adolescents au jeu de rôle, parce que c'est à la fois très simplifié et en même temps très complet dans la façon de faire les choses. C'est-à-dire que c'est un jeu qui, en surface, est très simple. On est toujours guidé, on est toujours pris par la main dans Pokémon. On avance relativement facilement. On n'est jamais perdu. C'est quand même un jeu qui est fait pour des enfants, hein, on ne va pas se le cacher. Mais il y a une profondeur de jeu. C'est-à-dire que plus on avance, donc on joue un dresseur qui arrive dans un pays ou dans une ville, qui ne connaît rien à ce nouveau pays.
Parce qu'en fait, c'est un rite d'initiation Pokémon. C'est-à-dire à 10 ans, on a le droit de se lancer dans une quête de Pokémon pour devenir maître Pokémon.
Voilà, et généralement, on a un mentor qui est un professeur émérite et dont l'objectif est de répertorier l'ensemble des Pokémon qui existent dans la région dans laquelle on se trouve, région qui change donc à chaque jeu, et qui va utiliser justement l'enthousiasme et la jeunesse de ses enfants en leur disant bah, « Vous partez à l'aventure, je vous confie un Pokémon ». Alors à chaque fois au début du jeu, il y a toujours ce rituel qui est un crève-cœur en général, parce qu'il faut choisir entre trois Pokémon. Et à chaque nouvelle version du jeu, il y a pendant des semaines avant, quand on apprend, quand on découvre les trois nouveaux Pokémon, il y a des discussions sans fin sur Twitter, sur Facebook, pour dire lequel tu vas prendre toi. Voilà, qu'est-ce que tu vas choisir.
Donc on prend un Pokémon pour en chercher d'autres.
C'est ça.
C'est ça.
C'est qu'en fait,
on a un Pokémon avec nous et le but, c'est de collectionner d'autres Pokémon.
Voilà. C'est qu'on en a un seul au départ qui, traditionnellement, est le choix entre les trois, il y a trois types, eau, feu et plante. C'est un jeu de pierre-papier-ciseaux, en fait, hein, tout simplement. C'est-à-dire que les Pokémon de type plante sont très forts contre les Pokémon de type eau. Les Pokémon de type eau battent ceux du feu et ceux du feu battent les plantes.
Et pour capturer les Pokémon que l'on rencontre dans la nature, on a besoin d'une Pokéball.
Ça ne va pas faciliter les choses. Bon, écoute-moi, tu devrais être dans ta Pokéball, comme tous les Pokémon. C'est ce que dit le Pokédex.
Pendant leur dressage, les Pokémon restent généralement dans leur Pokéball.
Tu vois ? Pika !
Néanmoins, certains Pokémon ne supportent pas d'être enfermés.
Bon, d'accord.
Alors, on le voit quand même, le principe, c'est de capturer des animaux dans leur milieu naturel qui n'ont pas vocation à vivre dans une Pokéball.
Pas vraiment. Enfin, personne n'a vraiment vocation à vivre dans une Pokéball. Ça n'a pas l'air hyper agréable comme ça. C'est qu'une Pokéball, pour vous décrire, c'est une sorte de petite boule de, on va dire, 10 cm de diamètre. La plupart des Pokémon sont quand même plus grands que ça. Voilà, on va dire qu'on part en termes de taille d'une fourmi à un dragon, ce que ça a de plus gigantesque. Donc ça n'a pas forcément vocation effectivement à vivre dans une petite balle de 10 cm de diamètre, mais voilà, on l'a entendu, ça pose justement une question de la captivité des animaux ou de ces Pokémon, qui est en partie, en fait, dès le départ, c'est-à-dire que là, l'extrait que vous avez passé, c'est le tout premier épisode du dessin animé adapté du jeu vidéo, qui suit plus ou moins le scénario des jeux vidéo. Et dès ce premier épisode, on pose ce problème de est-ce que la captivité des animaux, finalement, ça pose pas souci ?
Est-ce qu'ils restent vivants, les animaux qu'on capture ?
Oui, toujours. Alors, et même, il y a une subtilité en plus dans le jeu qui est sans doute liée au fait que c'était destiné aux enfants, mais aucun Pokémon ne meurt. Enfin, en tout cas, jamais en combat. Ils vont mourir de vieillesse, éventuellement. C'est-à-dire qu'il y a des cimetières de Pokémon dans les jeux. Mais un Pokémon ne va pas mourir dans un combat, il ne va pas mourir de sa propre exploitation, en fait.
Alors, on va continuer à explorer les arcanes du jeu Pokémon. Mais avant ça, on va écouter Isaac Hayes avec ce thème que tout le monde connaît, le thème de Shaft. Voilà, quelqu'un qui n'attrapait pas les Pokémon, mais qui les attrapait toutes. Isaac Hayes, Shaft. We'll be right back.
black private dick, because the sex machine is all the chicks. You're damn right. Who is the man that would risk his neck for his brother, man?
Shut up!
Can you dig it? The cat that won't cop out when there's danger all about.
Yeah.
Right on. You see, this cat Chef is a bad mother.
Shut your mouth.
What I'm talking about, Chef?
Well, he can do
it. He's a complicated man, but no one understands him but his woman.
Damn, Chef.
C'était le thème de Shaft, Isaac Hayes.
Blockbuster, Frédéric Sigrist, sur France Inter.
Pikachu.
Alors, on est bien sûr ensemble pour parler de cet incroyable phénomène qui est Pokémon. Alors, on est avec Olivier Bénis, hein, journaliste. Et donc, j'aimerais savoir maintenant, j'aimerais qu'on raccompagne Olivier Bénis, le journaliste, à la porte, quelques instants. Et on reste avec Olivier Bénis, le gamer.
Oula. Hein,
quelle est votre première rencontre avec Pokémon? Et surtout, comment est survenu le coup de foudre?
C'est un coup de foudre très tardif en fait pour moi. C'est-à-dire que j'ai toujours été passionné de jeux, donc quand c'est sorti évidemment et que j'ai vu que ça arrivait avec ça va être le plus grand jeu en termes de vente, ça va tout exploser. Bon, forcément on essaye. Moi j'étais beaucoup plus dans Zelda justement sur Game Boy à l'époque et tout. Et bon, j'étais un peu en recherche de nouveaux jeux un peu d'aventure ou jeux de rôle un peu plus développés. Et Pokémon, j'y ai joué un petit peu, j'y ai pas joué, j'ai dû y jouer quelques heures pour voir parce qu'on me l'avait prêté, parce que c'était la grande époque où on se prêtait les jeux, voilà, ça a un peu disparu tout ça. Mais voilà, donc je l'ai testé, j'en ai retesté un autre un peu plus tard sur la Game Boy Advance parce que j'ai toujours eu ce côté, en fait, c'est marrant, j'accroche pas trop et je pense que je passe à côté d'un truc. Et donc j'ai chaque fois joué quelques heures à chacun en disant ouais c'est sympa mais je vais pas forcément aller plus loin. Et puis comme je vous disais tout à l'heure, il y a eu cette histoire de banque Pokémon qui est arrivée et là d'un seul coup j'ai eu une espèce de révélation où je me suis dit je viens de comprendre l'intérêt du truc. C'est je viens de comprendre qu'en fait c'est j'aurais dû commencer à l'époque et accumuler des Pokémon et en développer certains et voir s'ils sont heureux en fait dans mes aventures et puis les emmener dans de nouvelles aventures.
Et c'est quand même l'aspect collectionneur aguerri qui prime.
Oui, c'est ça qui a fini par me parler en fait, c'est le côté collection. Et à un moment justement, il y a 2-3 ans, je me suis dit, allez, et je vais pas forcément les attraper tous parce que c'est ambitieux, mais je vais me faire une petite collection et je vais avancer petit à petit. Mais il faut savoir que, en plus, il y a des niveaux de collectionneurs sur Pokémon. C'est-à-dire qu'il y a le collectionneur un peu en dilettante comme moi qui va essayer d'en accumuler pas mal. Je dois avoir, je sais pas, la moitié à peu près du chiffre total qui est à 800 et quelques. Mais il y a aussi des gens qui vont plus loin. C'est-à-dire qu'ils disent qu'ils les veulent tous. Mais en plus, ils les veulent tous dans toutes les couleurs possibles. Parce qu'il y a aussi des Pokémon rares qui ont une couleur différente. Et les gens passent des heures, par exemple, à aller dans un endroit où on peut trouver des Pokémon et à gérer mathématiquement en fait les probabilités, c'est-à-dire qu'il y a certains Pokémon qui ont une chance sur 8000 et quelques d'apparaître. Et donc ils vont à un endroit, ils passent, ils voient un Pokémon qui apparaît, si c'est pas le bon, ils redémarrent la console, ils reprennent, ils refont, ils redémarrent, ils refont.
Et c'est là qu'on arrive au niveau névrotique.
Je dirais pas névrotique, Pokémon, je dirais.
Et là où les éditeurs regardent leurs enfants en disant tu ne joueras plus jamais à ce jeu de ta vie.
C'est que si un jour votre enfant vous dit je suis en train de chercher des Pokémon chromatiques, inquiétez-vous.
Oui. Voilà. Alors, Carapace et Bulbizarre, enfin je veux dire Marine et Chloé, sont allés demander aux gens s'ils connaissent ou s'ils avaient encore un souvenir de Pokémon.
Qui ne regardait pas?
Ouais, quand j'étais petit.
Moi aussi.
Je n'aime plus Pokémon.
Moi, je pense que c'est un truc addictogène, en fait.
C'est un petit peu débile, un peu criard, et ça va un petit peu trop vite.
Pikachu, le Pokémon principal.
Dragonfeu, parce qu'il est stylé.
C'est Arceus, parce que c'est le créateur de ce Pokémon, je pense. Hein.
Les Pokémon et l'hamster, secret de leur pouvoir. Pokémon,
ça fait partie des premiers dessins animés que j'ai vus.
Je pense que psychologiquement, ça me paraît être quelque chose d'inquiétant.
Quand j'étais petite, j'étais amoureuse de Salamèche.
Dracofeu, parce qu'il a du charisme.
Quand j'avais 3 ans, je le regardais.
Le Pikachu, parce que j'ai quand même assez vieilli, donc je m'en rappelle plus des noms.
Je ne saurais pas dire, c'est depuis tout petit, mon préféré c'est Dracofeu, du coup ça restera Dracofeu.
Pikachu, parce que lui, l'électricité peut électriciter tout le monde.
Pokémon, attrapez-les.
Salamèche, surtout Dracofeu, parce que je sais pas, il fait partie de la première génération et c'était les Pokémon mythiques.
Quand les Pokémon ils sont forts, alors ils ont mal un peu.
Enfin, c'est des Pokémon, déjà ils sortent des buissons, ils viennent t'attaquer de nulle part. Bah c'est normal que tu les captures, faut les dresser un peu, non?
Non, ouais, je trouve qu'ils sont un peu maltraités quoi. Ils mériteraient au moins un refuge ou un truc comme ça, un petit zoo.
Quand on y pense, ouais, c'est quand même des dresseurs qui envoient d'autres personnages se faire tuer pour leur propre satisfaction. Mais quand on est gamin, on n'y pense pas quoi. Pour nous, on veut juste des Pokémon et on s'en fiche de savoir s'ils se font mal ou pas quoi.
Bah quand même, ils sont un peu enfermés dans une toute petite boule. Je me sentirais claustrophobe.
Alors Olivier Bénis, une réaction ?
Sur la claustrophobie des
Sur
Pokémon.
Sur la claustrophobie des Pokémon.
C'est une vraie question. C'est que ça a longtemps été une question un peu blague. Il y a eu notamment, moi je me souviens moi-même, il y a quelques années, c'était en 2011 ou 2012, la PETA, qui est l'équivalent de la SPA américaine, avait lancé une campagne pensons au fait qu'on maltraite les Pokémon, qu'on les capture, qu'on les enferme dans des boules et qu'on s'en sert ensuite pour organiser des combats. C'est qu'en gros, est-ce que finalement c'est mieux que des combats de coq ou une corrida ou un truc comme ça. À l'époque, c'était un peu marrant parce qu'il avait fait de façon un peu second degré en faisant un faux jeu justement où on ne jouait plus le dresseur mais où on jouait le Pokémon qui se rebellait contre son dresseur et qui devait le battre. Et donc c'était un peu marrant et surtout mais ce qui était intéressant en fait dans la deuxième partie du message, c'est que le but était évidemment pas de dire il faut libérer les Pokémon et aller ouvrir la cage aux Pokémon ni rien, c'était de dire pensez à ce qui se passe dans ce jeu. Maintenant, projetez ça en fait dans votre conception vous-même de la nature, des animaux et tout. Et est-ce que finalement il n'y a pas des choses qui vous y font penser? Et est-ce que vous n'avez pas dans ce jeu, sous prétexte que c'est un jeu, un comportement qui peut-être a un impact plus fort que ce que vous pensez dans le monde réel?
Mais d'ailleurs, la réaction de PETA,
Sébastien Moreau,
la réaction de PETA a quasiment été demandée par Game Freak, parce que si on prend, parce que ce qu'ils ont parodié, c'est Pokémon blanc et noir, en faisant Pokémon noir et bleu, je crois. Et en fait,
qui sont des éditions du jeu.
Et dans lesquelles il y a une équipe qui s'appelle la Team Plasma, dont l'objectif est la libération des Pokémon, dont le discours est une version caricaturale de celui de PETA. Donc on a une, je vais pas dire une attaque, mais on a en tout cas une recherche de questions dans cette direction-là, qui fait que PETA, en fait, ne pouvait pas sauter dessus, parce qu'en plus, ils avaient déjà fait d'autres détournements, ils ont détourné Super Meat Boy, ils ont détourné
Super Mario, même.
Super Mario, exactement.
Et Sébastien Moreau, avant d'être complètement engagé comme ça dans la cause animale, est-ce que vous-même, vous avez été un joueur de Pokémon?
Non, parce que à peu près dans les mêmes époques, moi j'étais plus sur Super Nintendo, sur les consoles salon, et j'étais très RPG aussi, mais du coup les RPG étaient les jeux de rôle étaient un peu plus, on va dire les jeux de rôle de consoles salon allaient un peu plus loin dans les mythologies, dans les histoires, type Final Fantasy VI, type Secret of Mana, type ces jeux-là, et moi j'étais plus dans cette branche-là de jeux en fait que les jeux Game Boy, même si j'ai joué un peu, mais non, du coup, Pokémon, j'ai découvert assez récemment.
Olivier Bénis,
je rebondis justement sur le côté, on parlait du côté jeu de rôle, c'est un autre intérêt, à mon avis, de Pokémon, c'est que c'est, comme je disais tout à l'heure, ce sont des jeux qui sont assez simples et accessibles, mais qui ont des mécaniques de jeu qui sont exactement les mêmes que celles des jeux de rôle pour ados ou pour adultes, comme un Final Fantasy, et on peut très facilement passer de Pokémon à enchaîner avec Final Fantasy, avec d'autres références du genre. Et c'est peut-être ça aussi qui bloque quand on a découvert ça un peu tardivement, c'est-à-dire que c'est vrai que quand on est déjà dans un Final Fantasy ou quelque chose comme ça, qui a vraiment, où il y a des aventures qui ont une ampleur qui dépasse très largement celle de Pokémon, c'est vrai qu'à côté, ça fait un peu jardin d'enfant, quoi, Pokémon. C'est très profond, ce sont toujours des très bons jeux et auxquels on a beaucoup de plaisir à jouer. Mais voilà, quand on a sauvé le monde, on a un peu plus de mal à revenir à ça.
Et pour parler d'une vision du monde, justement,
Isabelle Aron,
Laurence
Armand.
Donc, on pourrait effectivement se poser la question du rôle du virtuel et de l'éducation des jeux vidéo. Et justement, poser la question de savoir si le virtuel peut modifier le réel. Et ensuite, sur le côté éducatif ou non du Pokémon et aussi des jeux vidéo. Moi, j'étais très étonnée cette année en travaillant avec des collégiens de voir à quel point l'univers des jeux était très riche. Et quand je me suis, par exemple, penchée sur Superman, j'ai vu qu'ils avaient des tonnes de connaissances. Et notamment, il y a toute une mythologie dans Superman, la kryptonite. Et la vision japonaise est encore, sans doute, esthétiquement encore plus riche. Donc moi je me pose cette question, le jeu vidéo, est-ce que c'est quelque chose qui va contre effectivement l'esprit d'harmonie, de paix, ou est-ce que le jeu vidéo peut être une incitation à, par exemple, s'occuper des animaux, à réfléchir sur le sort des animaux, et est-ce
Je crois que en fait c'est un débat qui est presque dépassé aujourd'hui, qui est souvent repris dans les magazines de psychologie, mais qui au sein des joueurs est désormais complètement acté. Enfin, Olivier Bénis, vous pouvez me contredire, mais j'ai l'impression que
non, je ne contredirai pas, je ne me permettrai pas. Mais
allez-y.
Mais je vais aller dans votre sens vraiment. C'est quelque chose que je dis souvent, c'est qu'en fait le jeu vidéo est un média. Donc potentiellement, comme la télé, comme le cinéma, comme le livre, comme la BD. Il peut transmettre des messages, il peut avoir une influence, tout comme il peut être totalement inoffensif. C'est juste une façon de transmettre des choses, un jeu. C'est à la fois une vision artistique et c'est une vision, pas toujours, mais dans certains cas, mais c'est aussi une vision de transmettre des expériences, de transmettre des sentiments, de transmettre potentiellement des opinions, mais c'est ce qu'on veut en faire. C'est-à-dire que le jeu vidéo en soi n'a pas d'influence, c'est ce qu'on met à l'intérieur qui peut en avoir.
Alors là, on parle de Pokémon, mais et c'est vrai qu'on en parle avec énormément de gentillesse. Il y a des joueurs autour de la table, mais Pokémon n'a pas forcément été bien accueilli. On l'écoute maintenant.
Pokémon, le film, a donc pour pair un jeu vidéo vendu à 32 millions d'exemplaires dans le monde, record de vente des jeux vidéo. Un véritable phénomène, il y a eu aussi des jouets, une série télévisée et puis le film qui mise donc sur le phénomène de reconnaissance.
Même si le film est vraiment pas terrible, ce que les enfants aiment, c'est retrouver les personnages de la série télévisée et ils jouent sur la Game Boy et après ils passent directement au film et ça leur plaît ça.
Mais ce film alors, comment est-il ?
Vraiment très très bien.
Bien sans plus. Il y a eu trop de combats, je trouve. Faut comprendre l'histoire.
Mais c'est bien.
Pas terrible, bof.
Pourquoi bof ?
J'ai pas beaucoup aimé.
L'adulte non-pokénomaniaque est frappé par la laideur des bestioles, le graphisme sans relief, le scénario pauvre. Et puis, à force de ne s'adresser qu'à des accros du jeu, le film exclut les autres spectateurs et c'est déprimant.
Alors, vous avez bien évidemment reconnu Eva Bettan, qui n'a pas caché son amour pour le film
qui
Pokémon.
Qui n'est pas spécialiste en jeux vidéo.
Non, ça s'est senti. Mais en même temps, c'est vrai que de nombreux parents, lorsqu'on leur évoque les Pokémon, font souvent la grimace. Et on a beau leur expliquer l'intérêt du jeu, ils restent encore assez réfractaires. Est-ce qu'on peut expliquer pourquoi ?
C'est une bonne question. En fait, je trouve ça un peu paradoxal toujours comme critique sur Pokémon. C'est une critique que je peux entendre sur plein de jeux. Et sur Pokémon, je sais pas pourquoi, ça me chiffonne toujours un petit peu parce que, mais alors j'ai peut-être une vision totalement biaisée, mais j'ai l'impression que le jeu est conçu au contraire pour le partage. Et que c'est un jeu avec lequel on peut discuter entre parents et enfants parce que c'est accessible à tous et que même pour un parent qui est totalement hermétique, il y a quelques bases à voir, mais c'est pas si compliqué à comprendre. Et il suffit en fait, enfin moi ça m'est arrivé 2-3 fois, mais il suffit de voir parfois des enfants qui explique à un adulte, c'est passionnant à voir. Voir un enfant qui explique Pokémon à un adulte et qui explique qu'il vient d'avoir telle carte et que c'est bien parce qu'elle est rare et tout. Et en général, ça commence toujours par l'adulte qui fait des grands yeux ronds, genre je sais pas du tout de quoi tu me parles, mais au bout de 10-15 minutes, un enfant, même assez jeune, arrive à expliquer pourquoi c'est intéressant. Et l'adulte, même s'il n'est pas obligé de s'y intéresser, mais par contre, à la fin, il aura compris, sans trop de problèmes, parce que c'est assez facile en fait à expliquer que bah oui, je viens d'avoir un Salamèche et puis il va évoluer en Reptincelle et du coup il sera plus fort, et comme c'est un Pokémon de feu, en toute logique, il va pouvoir se battre contre des Pokémon plantes et les battre plus facilement.
Ah, je confirme, si on n'avait pas Pokémon comme sujet avec mon fils, on se parlerait pas.
Et justement, je vais rebondir c'est là-dessus, c'est extrêmement intéressant puisque il y a des études de sociologie et de psychologie qui ont été faites sur le sujet, et on a beaucoup étudié les aspects négatifs des jeux vidéo sur la violence, mais aussi les aspects prosociaux des jeux coopératifs. Et il s'avère que effectivement, les jeux prosociaux augmentent l'empathie, ça a été vraiment démontré empiriquement sur des études longitudinales. Ça augmente l'empathie, ça augmente les comportements prosociaux qui sont exactement ce qui est décrit là. Je sais qu'on disait tout à l'heure, je jouais à un jeu qui était un jeu de tir, j'ai aussi beaucoup joué à World of Warcraft, à assez haut niveau également, et on co-dirigeait une équipe de 50 personnes.
Qui sont des jeux en ligne sur PC.
Qui sont des jeux de rôle massivement multijoueurs sur PC, ouais. Donc c'est des univers ouverts avec des quêtes à faire en équipe. Et donc nous, on dirigeait une équipe à 3 de 50 personnes. Et justement, ça apprend énormément. Moi, qui suis quelqu'un d'assez solitaire en temps normal, ça apprend énormément à se positionner du point de vue des autres, puisqu'on avait aussi des rôles de formateur. Et effectivement, c'est un rôle prosocial qui est très important. Et Pokémon, je pense, a cet aspect très positif de favoriser la communication.
Donc, on pourrait se poser la question de savoir effectivement pourquoi on les utiliserait pas comme outil éducatif, à condition bien sûr de faire des distinctions. Là, j'ai un petit peu regardé la semaine dernière, à plusieurs, on a regardé, il y a des jeux vidéo qui sont extrêmement violents, qui peuvent effectivement consister à tirer sur des animaux. Mais Pokémon ne présente pas effectivement, je dirais, cet inconvénient de tuer, disons, gratuitement. Et moi, je me demandais si on pouvait pas faire une différence entre une approche, une esthétique japonaise, bon, Olivier Béni c'est spécialiste, des jeux vidéo peut-être style américain, puisque là dernièrement j'ai regardé The Last Guardian, je ne sais pas si vous connaissez, et j'ai trouvé ça super, je ne connaissais pas.
Et c'est japonais. C'est aussi un jeu japonais.
Voilà, et c'est vraiment fabuleux. Donc là, vous avez une espèce de grande chimère, oui. Et un enfant, et c'est un jeu d'initiation.
C'est une relation symbiotique entre un enfant et une créature immense qui vous suit, et qui est limitée par sa taille, contrairement à l'enfant qui, lui, peut passer partout. Et c'est donc ce rapport entre les deux personnages.
Oui, donc on pourrait se demander, est-ce qu'on ne pourrait pas adapter, par exemple, des fictions littéraires, les jeux vidéo? Est-ce qu'il ne pourrait pas s'emparer de cet outil, puisqu'il y a des films qui ressemblent à des jeux vidéo et vice-versa?
Alors, il est 11h37, c'est l'heure du questionnaire Redman. Hein, Sophie et moi, on va vous donner des chiffres, mais il y aura 3 propositions de réponses. Alors attention, il peut parfois y avoir plusieurs bonnes réponses. Je donne la parole à Sophie.
Alors, on va commencer par le chiffre 3. Est-ce qu'il s'agit du nombre de mois qu'il a fallu pour que Pokémon devienne en France le jeu le plus vendu de l'année 1999? Est-ce qu'il s'agit, donc toujours le chiffre 3 en millions, du nombre d'utilisateurs quotidiens de Pokémon Go? Ou est-ce qu'il s'agit de l'âge moyen des joueurs de Pokémon? Est-ce que vous avez une idée sur le chiffre 3?
Je crois que Pokémon Go sera 5 millions aux États-Unis par jour.
Oui, il sera beaucoup plus.
Alors, c'est 30 millions, effectivement. Ouais, Pokémon Go. Millions. L'âge moyen des joueurs de Pokémon, c'est 19-20 ans. Ouais. Donc, il nous reste.
On est dans le haut de la tranche, Olivier.
On est dans le très très haut de la tranche.
Donc, en 3 mois, Pokémon devient en France le jeu le plus vendu de l'année 1999. On passe à 1996. Est-ce que c'est l'année où Satoshi Tajiri imagine un jeu où l'on collectionne les petites bêtes qu'il baptise Pokémon? Est-ce que 1996 est l'année de lancement des Pokémon au Japon? Ou est-ce qu'il s'agit de 1996 euros par minute de ce que rapporte Pokémon Go à Nintendo?
Je verrais bien les deux derniers, moi.
Alors, je suis pas sûr pour la dernière parce Olivier que je crois Lénis. Que Pokémon Go n'est pas édité par Nintendo en fait. Nintendo est principal actionnaire dans The Pokémon Company, oui. Qui est la boîte qui édite Pokémon Go.
Et l'éditeur est Niantic.
En tout cas, Pokémon Go rapporterait 3920 euros par minute. Et effectivement, 1996 est l'année où le jeu Pokémon arrive et c'est aussi l'année de lancement des Pokémon au Japon. On passe à 802. Est-ce que c'est le nombre total existant de Pokémon? Donc on a compris qu'il y avait plusieurs sortes. Est-ce que c'est le nombre de pas supplémentaires par jour qu'un joueur de Pokémon Go va faire comparé à un non-joueur? Parce que c'est vrai que ça fait marcher, Pokémon Go, il faut se balader en vrai. Ou est-ce que c'est le nombre d'excuses à la minute que Frédéric Sigrist est prêt à inventer pour jouer à Pokémon?
C'est la troisième.
La troisième.
Vous êtes unanime.
Mais non, 802, c'est le nombre faible comme chiffre.
Et c'est également 802 le nombre total existant de Pokémon. Il y avait aussi deux bonnes réponses. Dernier chiffre, 3,4. Est-ce que c'est en millions le nombre de personnes qui utilisent l'application Pokémon Go au volant? 3,4 millions. Est-ce que c'est le pourcentage de Français qui ont entendu parler de Pokémon Go? Ou est-ce que c'est en kilos le poids de Bulbizarre? Est-ce que vous avez une idée sur le chiffre 3,4? En tout cas, je peux vous dire...
Je dirais le poids de Bulbizarre, moi, mais...
Alors, le poids de Bulbizarre est de 6,9 kg.
Ah, je le voyais plus petit.
Et le pourcentage de Français qui ont entendu parler de Pokémon Go est 87% quand même. Mais je pense que vous avez quand même brillamment réussi
ce
questionnaire.
Oui, rempli le questionnaire. Alors dans Blockbuster, on gagne des chansons. Et la chanson que vous avez gagnée aujourd'hui, c'est Tatiana, ma femme, la femme.
Je veux te voir, je veux t'avoir. New York dans le nightclub, tu t'es rapproché de moi. Je ne vais pas oublier le contact de ta peau, ton sourire et ton rire. C'est comme si on se connaissait déjà quand on s'est mis à danser. Tu m'as donné un baiser de cristal à déposer là sur la langue. Fais sauter son top en jean, je crève en voyant sa patrie. Maintenant mon cœur bat au rythme des pas de Tatiana. Besoin de cuir, l'homme à la bouche, si méchant ce nightclub. Elle se sentait si bien qu'elle me laissa toucher ses seins. Je les prends dans mes mains pour être sûr que je ne rêve pas. Pas gros mais tellement beau, c'est les seins de Tatiana. Je me retiens, je respecte Tatiana. Besoin de cuir dans les rues noires, je vais les Pulse Nightclub. Je suis seul et je pleure de joie car j'entends cette chanson qui te donnera chaud dans ces bouffons de l'un enfant. Jour où tu seras dans les noirs, c'est la seule qui vient dedans.
C'était Tatiana, la femme.
Attention, qui que vous soyez, attention.
Blockbuster.
Cette fréquence est exclusivement réservée aux urgences.
Sans blague ! Et vous croyez que j'appelle pour commander une pizza ?
Sur France Inter.
Sophie !
Oui, Frédéric.
C'est l'heure de votre chronique Enfermée dehors. Alors, on sort un petit peu de notre thématique pour aller voir ce qui se passe cet été en France. Alors aujourd'hui, on se rend dans la ville fortifiée à Sémur, à Auxois, en Bourgogne, admirer les dessins de Jean-Jacques Sempé.
Sempé. Charles Gassot, ex-producteur de cinéma, de Tati Daniel, La Cité de la Peur et Un air de famille notamment, avait à cœur de faire venir la culture et ses amateurs hors de Paris. L'année dernière, il a l'idée d'accrocher des dessins d'Enki Bilal sur les murs de la ville. Et cette année, il réitère l'opération avec Jean-Jacques Sempé. Imaginez, une ancienne cité médiévale au cœur de la Bourgogne, transformée en musée de plein air.
Tout d'un coup, de voir des dessins qui devaient être sur des livres ou dans des journaux, agrandis comme ça, présentés sur les murs, je regarde les gens, il y a un vrai étonnement, il y a une vraie curiosité.
Un artiste qui s'inspire avant tout du quotidien.
Sempé, il a touché à tout. Il a touché aux embouteillages, il a touché aux amours, il a touché à l'enfance. Il touche beaucoup à la ville, une ville parfois très chargée. On a beau voir un dessin, on entend presque les bruits de la ville. On entend les coups de klaxon, etc., que ce soit à Paris ou à New York. Et je trouve que dans cet endroit justement qui est calme, qui est apaisé, d'apporter cet humour, ce regard, cette lucidité, avec toujours ce point d'ironie, Et de bienveillance, je trouve que c'est tout d'un coup un cadeau pour les touristes formidable.
Pour Charles Gassot, Sempé est un artiste à part, avec une personnalité et un regard unique, reconnaissable en un clin d'œil.
Je pense qu'il a imposé cette petite ironie du quotidien. Il tape un tout petit peu là où ça fait mal, mais il tape gentiment, c'est jamais méchant. Il montre quelque chose, comme vous voyez un couple qui est à une table énorme, qui fait 20 mètres de long, où les deux sont attablés, et que madame attend que monsieur ait fini son journal. Ben, ça représente une époque. Sempé vous accroche avec sourire au coin des lèvres.
On a tous en tête un dessin de cet artiste particulier, au coup de crayon précis et couleurs harmonieuses. Difficile de trouver son préféré, mais Charles Gassot nous en décrit deux.
Un monsieur très amoureux qui rentre dans une serre avec un bouquet de fleurs à la main. Ses fleurs sont bleues. Sa bien-aimée est au fond de la salle, accroupie au milieu d'un parc de tulipes qu'elle est en train de gérer. Cet anachronisme me plaît. Et puis il y en a un autre qui est magnifique, qui se passe à New York, au milieu d'une place, où il y a des buildings, où il y a des voitures, où il y a un monde fou. Il faudrait presque 2 heures pour voir ce dessin. Et quand vous regardez attentivement le dessin, il y a une histoire pour tout le monde. Un dessin de Sempé, ça vaut un roman.
Pour admirer les dessins de Sempé exposés dans la ville, rendez-vous à Ce mur en Auxois. Un parcours vous y attend, ainsi qu'une exposition consacrée au petit Nicolas à la bibliothèque municipale. Tout est gratuit et appréciable jusqu'au 3 décembre 2017.
Mais nous aussi, Sophie, on est sur les réseaux sociaux.
Et oui, on est sur les réseaux sociaux et on peut réagir à l'émission Blockbuster avec le hashtag BlockFI.
Alors, on est toujours avec Olivier Bénis, et Laurent Sarang et Sébastien Moreau pour parler de Pokémon et plus largement et de la condition animale. Donc, Laurent Sarang et Sébastien Moreau, avant d'aller plus loin, j'aimerais vous faire écouter un extrait de Pokémon.
Le combat de la Ligue de Kalos opposant Sacha et Alain va bientôt commencer. Quand les 6 Pokémon de l'un des deux dresseurs seront incapables de se battre, le combat prendra fin. De plus, lorsque 3 Pokémon de l'un des adversaires seront incapables de continuer à se battre, une nouvelle zone de combat sera utilisée. Et maintenant, appelez vos Pokémon.
Donc ma question, Laurent Sarang et Sébastien Moreau, c'est est-ce que vous accepteriez que vos enfants jouent à Pokémon ?
Sans problème, il n'y a pas de mort d'homme, à condition de préciser, de montrer les limites, disons, d'une éducation. Pas un sens strict. Ce que je pourrais dire, j'ai par exemple un groupe d'amis dans l'éducation nationale qui travaille justement sur ce rapport à l'animal, qui forme un groupe, donc je les salue, et qui pourrait effectivement utiliser la vidéo, hein, sa richesse, pour justement envisager toujours ce rapport si riche, comme on le voit avec le Pokémon, d'interaction.
Moi, je les laisserai jouer sans aucun problème parce que j'en ai pas, donc ça me dérange pas. Plus sérieusement, ça me poserait pas de soucis majeurs parce que je suis un gamer, donc faut pas attendre après moi pour dire du mal. Après, je sais qu'il y a des limites. Disons qu'il y a la seule chose qui pourrait me déranger dans Pokémon, c'est le glissement de valeur, c'est-à-dire qu'en fait. On favorise le fait que pour pouvoir devenir un champion Pokémon, on doit pouvoir capturer des Pokémon dans leur vie sauvage, peu importe qu'ils soient d'accord ou non, puisqu'il y a un truc dont Olivier parlait tout à l'heure dans la Pokéball qui se passe, qui quand même modifie à un moment la volonté des Pokémon qui finalement cèdent à la volonté humaine. Si l'humain est gentil, le Pokémon est gentil. Si l'humain est méchant, le Pokémon est méchant. Donc on a quand même un moment où sa volonté est en tout cas impactée. Et du coup, il y a ces notions-là. Et le fait que c'est important et c'est valorisé socialement de les capturer, peu importe leur avis. Et c'est vrai qu'il y a cette notion-là qui, on pourrait dire, oui, c'est pas grave, c'est un jeu, mais on sait que, pareil, il y a des travaux en sociologie qui montrent que ce genre de décalage de valeurs percole dans la vie de tous les jours, a des impacts sur, par exemple, les jeux violents, décale la tolérance à l'agression. C'est-à-dire que, par exemple, si jamais je joue à un jeu violent, un comportement ambigu qui aurait pu être pris comme étant agressif ou non, sera plus facilement pris comme étant agressif. De même, on va avoir un décalage de valeur, c'est-à-dire que si on considère que c'est pas un problème de capturer un animal parce que ensuite il sera d'accord avec moi, il sera heureux, ça, on risque d'avoir un glissement. C'est le seul vraiment souci que je verrais dans Pokémon, donc sinon, non, je les empêcherai pas de jouer s'ils viennent au monde un jour.
Et d'après vous, comment on passe de dessins animés pour enfants type Bambi ou Le Roi Lion, où les animaux parlent, sont mignons, etc., déclenchent l'amour des enfants, à l'apathie dans laquelle on se trouve majoritairement concernant le sort des animaux? Qu'est-ce qui s'est passé entre les deux? Comment on peut passer d'un monde où on adore les petites bestioles à un monde où on accepte de les avoir dans son assiette comme ça?
Mais c'est tout le paradoxe. C'est ce que un philosophe francione appelle la schizophrénie, c'est-à-dire que d'une certaine manière, et c'est une forme justement de spécisme, on n'accepte pas d'avoir un chien ou un chat à table, moi non plus, mais par contre, on accepte de manger un cochon ou du bœuf. Et ce qu'il faudrait faire, je vais prendre un exemple très simple, c'est sur les peluches. On a toujours présenté finalement le loup comme un animal dangereux. Et vous avez par exemple l'ours, qui est une sorte de peluche. Et moi, si je me trouvais en face finalement d'un animal, je préférerais le loup plutôt que l'ours. Donc, ce qu'on voit, c'est en fait un aspect toujours, je dirais, de représentation de l'animal par rapport à l'enfant. Et de manière générale, sur le consommateur. Alors, on a beaucoup de gens dans le Var, hein, dans la région PACA, qui travaillent sur ça. Et une amie a élaboré une bande dessinée. Je ne sais pas si vous connaissez, c'est Pouiki. Je voulais l'apporter et je ne l'ai pas retrouvée. C'est l'histoire d'un petit cochon. Et on montre justement que ce petit cochon, si vous voulez, il n'est pas fait pour être enfermé. Le cochon, ce n'est pas un animal bête, c'est un animal très intelligent. Et d'ailleurs, personnellement, moi, ce qui m'a motivée à ne plus manger de la viande à partir de 18 ans, c'est le cri des cochons. Et ça rejoint, si vous voulez, un petit peu la lutte de cette association qui fédère pratiquement tout le monde en ce moment, c'est L214, qui ne cesse de montrer l'horreur, la souffrance endurée par les animaux. Alors que l'enfant, finalement, si naturellement vous lui montrez un animal et ce qu'il pourrait manger, et que finalement il voit ce qu'il pourrait manger, ben là il n'est plus dans le virtuel.
Et Isabelle Arang, est-ce que vous n'avez pas l'impression
Florence
qu'avec
Arang.
Laurent, décidément, vous pourrez mettre une grande claque à la fin de l'émission.
Sans problème.
On fera ça après. Est-ce que vous n'avez pas l'impression que la communication sur les vidéos d'abattage, à la longue, risque pas de créer le même résultat que les photos choquantes sur les paquets de cigarettes? C'est-à-dire créer une forme d'insensibilité au phénomène?
Non, je vais répondre. Il s'agit toujours d'avoir ce rapport à la vérité, et il s'agit toujours d'inviter effectivement c'est pas, si vous voulez, du voyeurisme. Voilà, c'est un petit peu, si vous voulez, comme dans la photo de guerre ou dans le photo reportage. Il y a des limites. Vous savez, quand vous aviez des petites Vietnamiennes qu'on voyait courir nues, et vous aviez ce photographe qui avait filmé, mais ensuite qui avait secouru ses enfants. Donc là, c'est la même chose. Les membres de L214 font ça pour susciter une prise de conscience. Et cette prise de conscience peut justement amener le consommateur à voir autrement. Et à l'heure actuelle, il y a vraiment, si vous voulez, entre guillemets, une vague végane. Et c'est sans doute, si vous voulez, ce qu'on attend. Ça, comme mon camarade, moi je ne condamne pas du tout, si vous voulez, les jeux vidéo. Je pense que Pokémon reste assez inoffensif.
Et ça n'est pas le but de l'émission, c'est juste de poser la question.
Voilà. Et donc, ce que je voulais dire, c'est comment effectivement développer cette conscience. Mais cette violence, on va dire, douce, en tant que effectivement militant de la cause animale, on l'utilise, mais à bon escient.
Alors, on va se retrouver pour parler des perspectives d'avenir, justement, par rapport à la condition animale, et aussi peut-être imaginer un nouveau Pokémon qui prendra en compte l'antispécisme. Mais avant ça, on va écouter une chanson qui va sûrement plaire aux auditeurs qui nous ont écoutés hier avec Retour vers le futur, parce qu'on a commis, voilà, c'est un oubli, mais qu'on a voulu rectifier aujourd'hui. On va passer Johnny B. Goode de Chuck Berry.
Learned to read or write. Pikachu ?
C'était Johnny B. Goode de Chuck Berry. Alors ce vendredi 7 juillet, France Inter fête le 60e anniversaire d'un des labels mythiques de la soul et du rhythm and blues américain, Stax Records. Retrouvez sur le site de France Inter une playlist entièrement consacrée à Stax Records et aux artistes qui ont marqué l'histoire du label tels que Otis Redding, Isaac Hayes, Rufus Thomas, The Staple Singers, Carla Thomas, Sam and Dave, Booker T and the MJs et The Marquees. Rendez-vous sur franceinter.fr. Alors, Olivier Bénis, pour conclure cette émission sur Pokémon, d'après vous, quel est l'avenir de cette franchise ? Est-ce que c'est une mode ou est-ce que c'est vraiment l'apparition d'une nouvelle icône de la pop culture ?
Alors, je pense que c'est une icône de la pop culture déjà bien intégrée, même. Enfin, c'est que je pense pas que ça revienne en arrière. D'ailleurs, enfin, pour parler bêtement, les ventes de jeux sont toujours au plus haut niveau. C'est toujours un événement quand il y en a un nouveau qui sort. Là, je voyais dernièrement la conférence Nintendo où ils annonçaient leur prochain jeu. On suivait un peu les flux sur Twitter. Et y a, on va dire, une bonne moitié des gens qui disaient, on attend de voir s'il y a un nouveau Pokémon. C'est juste ça. Donc, ça fonctionne toujours. Et sur le côté, je rebondis un petit peu sur ce qu'on disait sur le rôle des animaux dans Pokémon. Moi, plus ça va et plus je trouve que Pokémon va vers un message pro-animaux ou pro-bien-être des animaux. C'est-à-dire que plus on avance, en fait, ils se sont un petit peu coincés tout seuls au début avec cette mécanique de la Pokéball, donc cette petite boule dans laquelle on enferme les Pokémon. Mais tout le reste a évolué dans un sens de plus ça va et plus, ne serait-ce que dans les mécaniques de jeu, le bien-être du Pokémon est une vraie est vraiment prise en compte. C'est-à-dire que plus le Pokémon va aller bien, plus il sera efficace, plus il aura des nouveaux pouvoirs, plus ce genre de choses. Et il y a même un truc, moi, qui m'a fait un peu sourire, notamment dans le dernier épisode, c'est qu'on voit de plus en plus de Pokémon avec un aspect humanoïde. C'est-à-dire que les évolutions des Pokémon les plus puissants maintenant, notamment dans le dernier jeu Soleil et Lune, c'est des êtres humains, quasiment. C'est-à-dire qu'il y en a un, au début, c'est un tout petit hibou tout mignon, et il devient une espèce de Robin des Bois archer, quoi, au final.
Eh bien, merci beaucoup Olivier Bénis. Je tiens également à remercier Laurent Sarang et Sébastien Moreau. Merci aussi à notre équipe, Céline Hila à la réalisation, Marine Beccarelli et Jeanne Paravert à la préparation de l'émission, aidée de Chloé Brassière. La programmation musicale est signée Thierry Dupin et à la technique aujourd'hui, Élise Christophe et Michel Bézikian. Aujourd'hui, Dorothée, quel est
Bonjour,
le sujet du débat de midi ? Bonjour Dorothée.
Le débat de midi, j'essaie de trouver des transitions toujours hasardeuses. Est-ce qu'on pourrait faire une épreuve de Pikachu aux Jeux Olympiques ?
Mais je pense que c'est un sport.
C'est un vrai sport. On va parler des JO et de la magie qui peut-être a disparu parce que vous savez que les villes candidates ne se bousculent plus pour organiser les Jeux Olympiques. Rendez-vous juste après le journal.